Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est dans 2 mois, le 29 mars à 23h, temps universel, que le Royaume-Uni doit quitter l'Union Européenne. Du moins en principe, à 2 mois de l'échéance, rien n'est sûr et tout est incertain. Depuis le rejet massif de son accord de retrait négocié avec l'Union Européenne par les députés britanniques, la Première Ministre Theresa May peine à trouver une porte de sortie, une renégociation de l'accord, alors que les 27 disent depuis sa conclusion qu'il n'en est pas question, un nouveau référendum, un Brexit sans accord, un report à l'initiative de certains parlementaires. Les options sont nombreuses et est un peu difficile de s'y retrouver. Y aura-t-il un Brexit dans 2 mois comme prévu? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous en studio. Elvire Fabry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue à l'Institut Jacques Delors et votre dernière publication s'intitule « Quid de l'impact d'un Brexit no deal, sans accord, sur les élections européennes ?» C'est sur le site de l'Institut Delors. Et Patrick Martin-Jeunier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions européennes, enseignant à Sciences Po et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est aux éditions Studirama. Theresa May, elle l'a dit aujourd'hui, veut retourner à Bruxelles avec un mandat des parlementaires pour rouvrir les négociations. Depuis la conclusion de l'accord, les 27 ont toujours dit que la négociation était terminée, qu'il n'y avait plus rien à négocier. Une réouverture des négociations vous paraît-elle envisageable dans ces conditions, Elvire Fabry?
Non, bah comme vous venez de le dire, ce soir, Theresa May a mis tout son va-tout sur le dernier amendement qui sera voté là d'ici quelques minutes, enfin d'ici 21h. Sur l'amendement Brady qui permettrait, enfin qui inviterait la Première ministre à se retourner vers les Européens pour renégocier une solution alternative sur la question du backstop, la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Ça fait des mois, ça fait des semaines, et encore hier, la négociatrice adjointe, le bras droit de Michel Barnier, l'a redit à Bruxelles. La négociation est finie.
Emmanuel Macron le redit ce soir. Il n'y a plus rien à renégocier.
Absolument. Absolument. C'est pour ça qu'on se dit que même si cet amendement passait, quelle serait l'alternative? Elle a même reçu déjà un coup de fil à l'heure du déjeuner du président de la Commission européenne lui disant, il n'y a pas de négociation possible de ce côté-là. Alors, là, ce qui est intéressant à cette heure-ci, c'est qu'on voit pour le moment, on a juste le résultat sur le premier amendement, qui était l'amendement du chef de l'opposition Corbyn, et qui a été rejeté. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que il a été rejeté par une courte majorité.
Son amendement, c'était pour empêcher un Brexit no deal, que le Parlement reprenne la main en cas de non-accord, c'est ça, hein?
Absolument. C'était pour une option de Brexit très soft. Mmh. En fait, c'était pour garder le Royaume-Uni dans une union douanière avec un alignement réglementaire dynamique. C'était vraiment l'option la plus soft du. Et là, on voit qu'il y a quand même eu pas mal un soutien relativement fort. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les jours qui viennent, ça peut et permettre de réengager le débat? Ça tiendra notamment au fait de savoir si les amendements qui iraient vers une possible extension et un débat, une reprise en main par le Parlement britannique vont passer ou pas.
Patrick Martin-Jeunier, la porte est fermée à Bruxelles?
Alors, est-ce qu'elle est complètement fermée? C'est une vraie question. Il est vrai, vous l'avez dit, Michel Barnier et son adjointe ont carrément fermé la porte. Mais la question que je pose aujourd'hui, c'est si Michel Barnier est effectivement les négociateurs en chef, et si certains chefs d'État et de gouvernement estiment que la porte est fermée, il n'en est pas moins qu'il me semble que la solidarité n'est pas aussi solide qu'elle ne l'a été. J'ai écouté le Premier ministre irlandais cette semaine. Il a envisagé éventuellement, effectivement, de reporter les contrôles aux frontières, soit à Calais, soit à Rotterdam, pour éviter d'avoir une frontière difficile. Et il semblerait aujourd'hui que certains disent qu'il faut favoriser filet de sécurité, c'est-à-dire l'absence de frontières entre la province d'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Mais il est vrai qu'on ne voit pas bien ce que va pouvoir renégocier Theresa May, car de quoi s'agit-il? Il y a des lignes rouges, et l'Union européenne l'a carrément dit, ces lignes rouges, et on ne veut pas rétablir les frontières. Pourquoi? Parce que ça remet en cause les accords du Vendredi Saint, et il y a un peu plus d'une semaine, il y a eu un attentat d'un groupe armé, l'armée républicaine irlandaise dissident, qui pourrait être lié effectivement à ce blocage lié au Brexit. Donc le grand danger aujourd'hui, c'est le retour de la violence. Je comprends Theresa May qui va essayer de faire passer son accord, qui lui permettrait d'ailleurs de retourner vers l'Union Européenne, éventuellement de retourner une situation en disant, regardez aujourd'hui, si la situation est bloquée, c'est à cause de l'Union Européenne.
Alors, je vous informe en temps réel, l'amendement Grive, qui était en défaveur de Theresa May, vient d'être rejeté. Donc, premier coup dur évité ce soir pour Theresa May. Et tout le monde attend, évidemment, l'amendement Cooper, qui serait favorable à un report du Brexit, une prolongation de la période qui est censée s'arrêter le 29 mars. La solidarité entre l'Irlande et les 26 autres pays appelés à rester dans l'Union, est-ce qu'elle est absolue, selon vous, comme le disait Patrick Martin-Jeunier et Elvire Fabry? En Irlande, le rétablissement d'une frontière dure fait vraiment peur, hein, à propos, évidemment, d'une éventuelle reprise des violences.
Oui. Depuis le début des négociations, ça a été une question centrale.
C'est la question qui bloque tout depuis le début, en fait. Hein.
C'est la question qui a été complètement absente du débat du vote au moment du référendum et qui très vite a fait surface comme étant l'épicentre, en fait, des débats et qui résume toutes les problématiques autour notamment la frontière commerciale selon l'option que décide pour laquelle opte le Royaume-Uni dans ses futures relations avec l'Union européenne.
Parce qu'il faut bien dire que l'essentiel du commerce qui arrive en Irlande, il passe par le Royaume-Uni, hein.
Absolument. C'est d'abord cette voie terrestre, d'une certaine façon, qui est importante. Sur la question de la solidarité entre les États membres, je serais beaucoup plus confiante dans la coalition des 27. Elle a été affirmée, réaffirmée, et c'est vraiment une question centrale. Parce que c'est une question de valeur. L'Union européenne s'est beaucoup engagée sur cet accord de paix et ne veut pas prendre de risques.
Est-ce que l'accord sur le backstop, sur le filet de sécurité irlandais peut évoluer? Là, il y a peut-être la possibilité qui est ouverte à des interprétations, Patrick Martin-Jeunier?
Oui, il y a différentes interprétations, et depuis d'ailleurs un certain temps, il y a des discussions. On avait dit, est-ce qu'on est obligé de rétablir une frontière physique très dure entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord? Mais imaginez effectivement des marchandises qui vont venir des États-Unis, de tous les coins du monde, qui vont atterrir au Royaume-Uni, qui vont passer en Irlande du Nord. Il ne faut pas se cacher la face, il va bien falloir qu'il y ait des contrôles, car c'est la frontière extérieure de l'Union européenne, et c'est tout le sens de ce qui a été dit par des responsables politiques britanniques la semaine dernière, disant attention, il y aura fatalement, en l'absence d'accord, une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et aujourd'hui, on a vu évoluer les choses en disant oui, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des moyens électroniques qui permettraient d'enregistrer les transactions commerciales en photographiant par exemple les parcs minéralogiques, ou alors en déclarant à la douane avant, à partir du lieu de production. Mais la Commission européenne a dit c'est bien d'avoir cela, mais en réalité, nous n'avons jamais testé une telle possibilité. Donc, on l'a envisagé, mais aujourd'hui, il n'y a rien véritablement de sérieux.
Oui, est-ce que ça existe, Elvire Fabry, à votre connaissance, une frontière physique qui ne serait pas physique? C'est du jamais vu. On est en train de parler de science-fiction, là, en fait, sur cette frontière.
Non, c'est en effet une situation assez inédite. Ce qui est vrai, c'est que là, ce qui a été envisagé, c'est de découpler ce qui concerne le contrôle des personnes, du contrôle des biens, et notamment les transferts de grosses marchandises ou les petites marchandises du quotidien qui correspondent à l'alimentation d'un côté et de l'autre de la frontière. Faut préciser que cette frontière, elle traverse des villes et des villages.
Oui, elle coupe en deux certains villages, absolument. Hein.
Complètement. Mm-hmm. Donc c'est un problème pour la vie quotidienne.
Oui, Patrick,
tout à fait raison. Mais moi, j'ai écouté des Irlandais qui nous disent attention, ce n'est pas que du commerce, ce n'est pas qu'une circulation de marchandises, c'est une question d'identité. C'est une question d'identité du peuple irlandais. Et cela, il y a des familles, vous l'avez dit, il y a des familles qui sont séparées, qui ne veulent absolument plus être séparées. Et on est vraiment sur une question d'identité et de peuple. Et donc, cela est tout à fait important. Et il faut absolument résoudre cette question.
L'Irlande donc n'a pas intérêt à cette frontière pour des raisons économiques, mais aussi politiques et historiques. Je reviens vers vous, Elvire Fabry. On en a parlé un petit peu, cette voiture piégée qui a explosé il y a quelques jours à Londonderry, ça ressemble à un avertissement. Les gens ont véritablement peur qu'on revienne sur une frontière physique entre les deux Irlandes.
Oui, là, il y a eu des témoignages récemment qui venaient des générations aînées, si je puis dire, qui, elles, ont véritablement entériné l'accord du vendredi saint de 98.
Qui ont connu, parce qu'il faut appeler une guerre, c'était une guerre, voilà.
Une guerre civile.
Ça a duré 25 ans.
Une guerre civile, beaucoup de morts.
3600 morts.
Et qui sont davantage inquiets de ce qui pourrait venir encore des jeunes générations, pour lesquelles le souvenir de ces conflits sanglants est déjà un petit peu lointain. Et comme vous dites, l'incident de la semaine dernière montre que tout ça peut repartir quand même. On ne peut pas prendre le risque qu'il y ait de raviver ces conflits. Et la question là qui est problématique serait la date de fin d'application de ce backstop. Et c'est là où les Britanniques voudraient pouvoir obtenir une limite.
Oui, parce que la crainte actuellement du Royaume-Uni, c'est que il n'y ait pas de limite à ce backstop, ce filet de sécurité, et que donc il soit attaché quasiment pour toujours à l'union douanière européenne, c'est ça?
C'est l'angoisse des Brexiteurs, ouais. Et notamment de ceux qui ont voté contre l'accord de Theresa May. Je vous rappellerai que cet accord a été battu à 432 voix, donc une majorité écrasante. Et parmi ces voix, il y avait 118 conservateurs rebelles qui ne veulent pas entendre parler de quelques négociations que ce soit. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, les députés unionistes qui font la majorité à la Chambre des communes, ils sont 10 députés. Et ceux-là ne voulaient pas entendre parler d'une situation provisoire ad vitam aeternam. Ils veulent sortir de ce backstop, ils veulent être raccrochés au Royaume-Uni, et effectivement c'était l'angoisse de ces gens-là, et c'est pourquoi jusqu'à présent, l'accord voulu par Theresa May n'a pas obtenu la majorité.
Un Brexit sans accord, on comprend bien que la possibilité de se rapproche au fur et à mesure que le temps passe et qu'il n'y a pas de vote clair au Parlement britannique. Un Brexit sans accord fait peur, notamment au milieu économique. Est-ce qu'il y a des personnes en Grande-Bretagne qui le souhaitent malgré tout, Elvire Fabry?
Oui, ben on trouve chez les Brexiteurs les plus durs la conviction que de toute façon le Royaume-Uni s'en sortira et qu'il vaut mieux assurer la sortie de l'Union européenne, quitte à ce que ce soit au prix d'un no deal, dont on sait que c'est la pire estimation pour l'économie britannique. Et c'est pas simplement d'un point de vue économique, c'est-à-dire que c'est véritablement une complication pour la vie quotidienne de tous les Britanniques. On a beaucoup parlé des problèmes d'approvisionnement en alimentation, en médicaments. Il y a des problèmes de main-d'œuvre pour les entreprises, main-d'œuvre non qualifiée avec la fin de la libre circulation. Enfin, ça veut dire une onde de choc pour le pays qui est très violente. Et même malgré, alors il y a aussi un certain nombre de mensonges qui circulent dans les débats sur le fait que ce serait facile de commercer même en appliquant les termes, les conditions de l'OMC et de distorsion, enfin en tout cas si ce n'est mensonge, de distorsion qui sont véhiculées par un certain nombre de conservateurs les plus durs, mais il n'y a pas de doute que c'est le scénario le plus brutal. Et même s'il y a un ensemble de prises de position à travers la Chambre des communes comme quoi ils rejettent cet accord, on voit qu'actuellement c'est quand même le scénario qui tient le plus la corde.
Patrick Martin-Genier, là-dessus, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vouloir réagir.
Oui, parce que moi j'étais à Londres ce week-end et j'ai discuté avec des Anglais à Londres, et il y a une dame qui me disait, moi je ne connais personne à Londres qui ait voté le Brexit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une vraie fracture politique territoriale en Grande-Bretagne entre ceux qui l'ont voté, Londres, la City, les entreprises ne l'ont pas voté. On peut comprendre que dans donc l'Angleterre dite profonde, dans les régions, pour des raisons économiques, on les votait. Donc il y a une vraie fracture. Mais je dirais que le chaos économique, ça va devenir une réalité. On a des entreprises, Rover, Jaguar, Dyson, qui ont tous dit qu'ils allaient délocaliser leur siège s'il n'y avait pas d'accord. Donc la situation est grave. Et on a l'impression qu'il y a un fossé entre les Britanniques et les parlementaires qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors qu'on est véritablement face au précipice.
Alors... Oui, Elvire Fabry.
Cette fébrilité du monde économique, elle est de plus en plus notable ces derniers jours. C'est-à-dire que là, on a le sentiment que les entreprises prennent la parole.
C'est comme le lait sur le feu, là.
Absolument, absolument. Et c'est quelque chose là qui commence à... Enfin, on sent qu'il y a quelque chose d'anxiogène qui est en train de monter.
Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que, comme il y a eu des exagérations pendant la campagne référendaire par les Brexiteurs, est-ce que là... les milieux économiques n'essaient pas de faire un petit peu peur, Patrick Martin-Genier?
Oui, il y a peut-être une part de tactique.
Hein, quand j'entends dire que la livre va baisser de 30% d'un coup ou en un an, enfin voilà, ou la valeur des maisons des Britanniques, de l'immobilier va perdre 50%. Est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu? C'est la Banque d'Angleterre qui a dit ça.
Oui, il y a peut-être une part de tactique en effet, parce que le Royaume-Uni, quoi qu'il en soit, reste un grand pays, c'est une grande place internationale. Mais vous savez bien que l'objectif, c'est de se débarrasser des règles de l'Union européenne, d'être compétitif, notamment sur le plan social, sur le plan économique. Ça, on ne peut pas contester cette capacité des Britanniques à être compétitifs, mais naturellement. tellement que si on devait partir le 29 mars sans accord, il y aurait un brusque coup d'arrêt à la croissance. C'est quand même la Banque Centrale de l'Angleterre qui l'a dit. Des entreprises partiraient, plusieurs centaines de milliers d'emplois sont concernés. Ça, c'est une réalité objective. Et donc, naturellement, ça ne veut pas dire que les Britanniques ne pourraient pas remonter, mais il est certain que dans un premier temps, la livre chuterait assez considérablement. Vous allez me dire, ça va doper les exportations, mais ça va renchérir considérablement la vie quotidienne.
Donc la peur du no deal qui est en train de monter, est-ce qu'elle peut entraîner un report, selon vous, Elvire Fabry?
Oui, je pense que...
Je rappelle qu'on attend toujours le résultat du fameux amendement Cooper. Je vous tiens au courant, hein, si ça tombe pendant cette émission, allons-y. Donc oui.
Oui. Là, il y a un vrai suspense sur cette question. Mais la peur du... Selon la situation dans laquelle se trouve Theresa May ce soir, la réponse qu'elle a des Européens demain... Et en effet, la possibilité ou pas d'étendre, toute façon, d'étendre l'application de l'article 50. Question que Theresa May elle-même n'a pas complètement récusée ce soir, en disant de toute façon, le Parlement aura la possibilité.
Alors qu'elle s'accroche depuis des jours et des jours à la date du 29 mars, il y a une petite ouverture là.
Oui, pour éviter en fait aussi qu'il y ait un vote favorable à cet amendement qui passe la main au Parlement britannique pour pouvoir étendre l'article 50. Mais elle a quand même confirmé que le 14 février prochain, le Parlement aurait la possibilité de se prononcer sur cette extension. Et en effet, aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle joue un peu une sorte de coup de bluff vis-à-vis de l'Union européenne. Les unionistes du Nord, encore une fois hier, l'ont appelé à exploiter le chaos du no deal pour faire pression sur les Européens. C'est sa carte actuelle. Si ça ne passait pas et si elle n'obtenait rien, en effet, à ce moment-là, la question de l'extension de l'article 50 redeviendrait d'actualité.
Patrick Martin-Genier.
Oui, de toute façon, la Grande-Bretagne vit une crise institutionnelle inédite dans l'ère politique contemporaine, parce qu'en réalité, la première ministre a perdu la main, c'est bien le Parlement qui a repris l'initiative, et quoi que dise Theresa May, elle n'a plus de pouvoir aujourd'hui, elle est tiraillée au sein propre de son gouvernement, c'est aujourd'hui le Parlement qui fait la loi, entre guillemets, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle a perdu la main là-dessus, et elle se laisse guider. La preuve, c'est qu'elle devait présenter un plan B le 21 janvier dernier, elle n'a pas été en situation de le faire, donc finalement, elle attend un peu le résultat des votes pour savoir ce qu'elle pourrait faire. La seule chose qu'elle fait, au final, c'est s'accrocher au pouvoir. Pourquoi ? Pour essayer de faire passer un hypothétique accord, alors même que si cet amendement Brady devait passer, l'Union européenne a dit effectivement qu'elle n'accepterait plus de négocier.
Sauf que je vous l'annonce, l'amendement Bowles-Cooper vient d'être rejeté, et donc Theresa May, elle est un petit peu confortée ce soir, Elvire Fabry.
Oui, écoutez, ça, en effet, ça veut dire que pour le moment, c'est pour ça que c'est un véritable phénix. Enfin, il faut considérer qu'elle survit. On voit qu'elle a survécu au vote de défiance du Parlement il y a quelques jours. Je crois qu'elle reste, en voulant, en tout cas, en restant droit dans ses bottes, avec l'objectif de vouloir mener à bien ce vote, c'est la volonté du peuple britannique de sortir de l'Union européenne, elle continue à garder une certaine cohérence. Maintenant, c'est vrai qu'elle reste sur une option de Brexit très dure, qui risque de faire échouer aussi les négociations.
Et donc, en quelques secondes, parce que c'est ce qu'il nous reste, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à la question de départ de l'émission ? Y aura-t-il un Brexit dans 2 mois, Patrick Martin-Genier ?
De toute façon, il y aura un Brexit. Le problème, c'est de savoir s'il sera avec ou en accord. Le rejet de l'amendement Cooper montre bien que les Brexiteurs et les unionistes se sont aujourd'hui ralliés, en quelque sorte, à Theresa May.
Elvire Fabry, je ne vous demande pas une prédiction, mais peut-être un pronostic.
La probabilité est en effet qu'il ait lieu dans un scénario de no deal, et sinon l'alternative ce serait un report de quelques mois.
Oui, ça se renforce quand même ce soir avec les résultats de ce vote à la Chambre des communes. Merci Elvire Fabry, merci également à vous Patrick Martin-Genier d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vanner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.